Est-on pécheur ou non? Est-ce que l'homme, dans le sens de race humaine, est pécheur, comme la Bible semble le dire?
Si on est basiquement religieux et dans la ligne droite d'un christianisme officiel, effectivement, on répond oui à cela. Néanmoins, le but qu'on se donne, c'est de considérer le texte biblique et considérer la notion de pécheur et de péché sous une perspective ecclésiastique et d'une théologie ecclésiastique. Et sous cet angle, nous, on fait une différence entre l'idée d'un homme qui est pécheur et l'idée d'un homme qui n'est pas fini. Un homme qui n'est pas fini, c'est ce qu'on appelle un embryon. Un homme qui est pécheur, c'est un embryon qui sort avant terme, alors qu'il n'est pas fini, qu'il lui manque encore plein de choses, mais qui va continuer à vivre, à prospérer dans la vie, à exister dans la vie, à travailler, à se marier, alors qu'il n'est pas fini. Il lui manque plein de choses. C'est un monstre. On parlera plutôt d'un golem, d'un monstre, ou plus précisément d'un raté. Mm-hmm. C'est d'ailleurs étymologiquement le sens propre du terme pécheur, c'est le raté. C'est pas un être qui est en faute, qui est criminel par rapport à une loi.
D'accord, un code moral.
C'est quelque chose de raté. Cette image du potier qui fait un pot et le pot il rate. Voilà, la glaise, ça marche pas, ça paf, il casse le pot, il le jette, c'est raté. Et puis pour un autre, c'est réussi.
D'accord, donc Dieu nous a créés ratés.
Non, il nous a créés non finis. Nous, nous faisons des enfants, ils ne sont pas finis au départ. Pendant 9 mois, ils sont dans l'utérus. Et ensuite, ils continuent à ne pas être finis. Il y a tout un processus psychologique et d'éducation avant de couper le cordon, de rendre libre cet adolescent, ce jeune homme, et lui dire maintenant, fais ta vie, deviens ce que tu es. Tu es fini.
D'accord.
Incarne ta liberté, incarne ce que tu es libre.
Et Dieu fait la même chose ?
Exactement. Exactement. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on vit dans l'utérus, en quelque sorte, pour reprendre la métaphore. On n'est pas fini. On attend la résurrection. On attend de sortir. Et il y a toute une flopée d'hommes qui ont décidé de sortir et de créer une réalité parfaite, idéale, qui va aller de progrès en progrès vers un homme parfait. Alors eux, ils appellent ça le surhomme. Après l'homme, je dirais, préhistorique, l'homme du Moyen-Âge, l'homme de la modernité, il vient le surhomme, l'homme parfait, l'homme idéal. Et pour arriver à ce processus, ils suivent un code moral ou un code rationnel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils mangent le fruit d'un arbre qui s'appelle l'arbre de la ratio, l'arbre de la science, du savoir, du bien et du mal. Là où sont construits les morales, les religions, les savoirs et toutes les sciences, de la religion jusqu'à la politique.
Mais il reste des hommes ratés, incomplets, non finis.
Ils sont des hommes non finis, et à partir du moment où ils décident de sortir et de construire une réalité autour de cet arbre, ils quittent cet état d'homme non fini et ils deviennent des ratés.
D'accord, donc au départ nous ne sommes pas ratés, nous sommes non finis, comme tu le disais. Et tu disais que d'un point de vue ecclésiastique, existentiel, le non-fini s'accomplit à la résurrection. Donc, sur cette terre, ici-bas, nous serons toujours incomplets.
Nous serons toujours non-finis ici, oui.
Non-finis.
Et la tentation, c'est de réaliser avant ce qui n'est pas possible de réaliser avant et qui ne se réalisera qu'après, et dans un autre lieu, dans un notre lieu, utopie.
Donc pécheur, c'est une forme stigmatisante de parler de cet homme non fini? C'est une forme culpabilisante?
C'est la construction du raté. C'est le raté lui-même qui a construit la notion du pécheur. C'est-à-dire qu'il sort de l'utérus, il construit sa réalité autour du bien et du mal.
D'accord.
Il construit des sciences, des religions, des politiques. Et il définit que le criminel, le pécheur, le mauvais, qui doit être condamné ou rééduqué, ou jeté au feu, définitivement décapité, c'est celui qui n'obéit pas à ce code, de ce grand arbre du bien et du mal, qui règne au milieu de sa réalité.
D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle éducatif justement du péché? Je pense à la repentance.
Oui, la repentance dans le sens où justement la repentance c'est une métanoïa, c'est-à-dire c'est un au-delà de la pensée. Noïa, ça renvoie au nous, à l'esprit, à l'entendement, à l'intellect. C'est une autre façon de penser. Méta, c'est noïa, c'est le repentir, c'est une autre façon de penser.
Une prise de recul.
Une prise de recul ou une perspective.
D'accord.
Il y a plusieurs manières de le dire, mais c'est là qu'on en vient à cette fameuse intuition de Chestov à la fin de son étude sur Kierkegaard, où il nous dit que c'est Dieu qui nous a poussés au péché.
Afin de nous mener vers la repentance?
Et de toute façon, le texte biblique, c'est ce qu'il dit. C'est Dieu qui nous a induits. C'est pourquoi, dans le fameux Notre Père, ne nous induit pas en tentation. Mm-hmm. Dieu nous a induits. C'est lui qui a placé l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal au milieu de l'Éden, dans la métaphore de l'Éden. C'est pas un arbre qui est tombé comme ça, ou qui a été planté par l'homme.
C'est un piège.
On fait comme ça avec nos enfants. On fait comme ça avec nos enfants. On les amène devant la dualité, devant des impératifs catégoriques, et on veut éveiller chez eux une conscience.
Pour leur apprendre à faire le bon choix?
Afin qu'ils quittent cette vie d'égoïste, d'égotiste, et que de l'ego, ils deviennent de l'individu. L'ego doit devenir de l'individu. L'ego, c'est celui qui veut absorber de la vie. L'enfant, quand il a faim, s'il mesurait 1m80 et qu'il pesait 100 kilos, il te fracasserait la tête contre le frigo pour que tu lui donnes du lait.
D'accord. Mais c'est aussi le prix en charge. C'est aussi une personne qui est totalement prise en charge. Donc ce que tu essayes de dire, si j'ai bien compris, c'est que le test de l'arbre du bien et du mal, c'est une façon d'aider l'homme à être responsable. Ou alors c'était une façon d'initier l'homme à faire des choix.
C'est une façon de pousser l'homme à désirer l'arbre de vie. C'est-à-dire à désirer être autre chose que cet être non fini qu'il est. Et d'être autre chose aussi que cet être parfait que lui promet l'arbre du bien et du mal.
Oui, mais alors pour le coup, c'est raté, puisque l'homme a définitivement choisi, en tout cas dans l'allégorie, l'arbre du bien et du mal, parce que les fruits étaient succulents, ils étaient beaux à voir, et ils étaient très prometteurs. Donc l'arbre du bien et du mal n'a pas dégoûté l'homme de cette dualité, et ne l'a pas poussé à chercher l'arbre de vie.
Après, si. Après, la réalité que l'arbre du bien et du mal lui construit... Il faut travailler pour manger, il faut suer, il y a des rapports de domination, de violence. Mm-hmm. La réalité est devenue une vraie difficulté et il n'atteint jamais, malgré les progrès, la paix et la sécurité promises par cet arbre. Mm-hmm. Et l'honneur, la noblesse que lui avait promis cet arbre, à chaque fois qu'il croit les avoir atteints, il rechute vers une autre difficulté et il doit refaire des efforts. Donc, il est sans arrêt dans l'impasse, sans arrêt dans l'échec, jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il rentre dans le repentir, dans le métanoïa, dans une autre manière de penser, de se dire « mais peut-être qu'il y a une autre manière de penser la vie ». Et cette autre manière, c'est l'arbre de vie. Mmh. C'est de devenir autre chose. C'est-à-dire de plus vouloir être ce vertueux, ce saint, que la justice du bien et du mal lui promet.
Ce saint par opposition au pécheur.
Voilà. Et aussi être autre chose que cet être non fini avant qu'il découvre l'arbre du bien et du mal. Être autre chose. Mais cette prise de conscience, elle s'est éveillée dans l'échec. Elle s'est éveillée grâce à l'échec. Elle s'est éveillée grâce à cette prise de conscience, grâce à ce feu et à ce tremblement et à ces éclairs qui ont été pour lui l'échec de cette perspective donnée par le bien et le mal. D'où Dieu induit en erreur pour atteindre son but, pour faire des fils de l'homme, des hommes finis, des fils de l'homme. L'homme, c'est le non fini, et le fils de l'homme, c'est le réussi, celui qui a atteint l'arbre de vie, et qui, pour atteindre l'arbre de vie, est passé par l'échec, est devenu un raté, et a eu en horreur ce raté, mais n'a pas voulu, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme, faire chemin arrière. « Oh, je vais revenir dans l'utérus, j'étais bien. » Non, c'est pas possible. Maintenant, il faut que tu ailles quelque part. Soit tu restes dans ton raté, et tu vas pourrir finalement dans ce raté, tu vas sans arrêt vieillir dans ce raté, soit tu fais du métanoïa et tu vas vers l'impossible de l'arbre de vie, vers le fils de l'homme. Ce qui fait que là, toutes les notions de bien, de mal, de pécheur, de salut, sont renversées sous cette perspective-là. Mmh. Et sous cette perspective-là, Dieu ne voit pas des pécheurs, il voit des êtres qui l'enfantent, et peut-être qu'il voit certains êtres qui sont tombés dans la réalité, mais qu'il n'a jamais enfanté, ou en tous les cas, eu comme perspective d'enfanter, qui ne sont pas ses fils. Là, dans le texte biblique, on parle d'élection. On parle de c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que Dieu a choisi tous les hommes? Ou est-ce qu'il en a choisi que certains, et que pour d'autres, il ne les voit pas? Ce serait terrible. Mais pourquoi pas? Comme le potier, voilà, bah, y en a, ça marche pas. C'est la réalité qui s'est autoproduite, puis ça disparaît. Je sais pas, ça pose problème. Mais en tous les cas, c'est pas la perspective d'un homme bien honorable en fonction du bien et du mal, d'un homme qui n'est plus pécheur. Ce n'est pas sous cette perspective que nous lisons le texte biblique. Nous lisons ce texte biblique sous la perspective d'un Dieu qui enfante, qui ne crée pas, et qui, dans cet enfantement, induit l'homme dans une prise de conscience nécessaire pour lui, pour qu'il aille vers une nature qui soit une nature semblable à celle de son Père, qui l'a enfanté.
C'est la promesse de la résurrection.
Voilà, du Christ, de ce sang donné. Et entre les deux, eh bien, il y a la sève de la raison, qui laisse les hommes dans une nature de ratés, de pécheurs. Ben, ils sont ratés, c'est sûr qu'ils ne sont pas finis, mais en plus ils sont ratés. Si encore ils n'étaient pas finis, mais ils sont ratés et ils restent dans ce raté. Et si après leur mort, ils sont toujours dans ce raté, je ne sais pas. Mmh. Certains sont persuadés de parler d'enfer. Oui, effectivement, il semble que rester dans ce raté après la mort, sans que la porte de l'arbre de vie s'ouvre, d'une autre possibilité de nature humaine, d'une autre vie, c'est certainement être une conscience éternelle qui n'a plus de corps, mais qui a conscience d'être une conscience, d'avoir été, et de ne plus jamais pouvoir être.
Donc pour résumer, pour rappeler la notion de raté, c'est donc la personne qui place sa vie sous l'égide des notions duel du bien et du mal.
Oui, et le raté, dans cette perspective, dans ce processus du bien et du mal, il construit de la religion, il construit des dieux et il construit des saluts.